qu'il y a un biais pessimiste sur l'état de notre planète, des opinions publiques et de la plupart des intellectuels. Mais souvent, ce qui est incriminé à l'intérieur du monde, c'est le déclin de l'Occident ou le déclin de l'Europe. Michel Onfray, par exemple, a écrit des milliers de pages sur la fin de la civilisation occidentale.
Et Régis aussi.
Bien sûr. Or, ça n'est pas du tout ce que l'on voit dans les chiffres. Et donc, je vais commencer par là. Je vais commencer par vous donner quelques repères un peu concrets sur le monde dans lequel on vit, sachant que l'histoire et l'économie au XXe siècle, et évidemment a fortiori au début du XXIe siècle, nous ont vraiment fourni des munitions intellectuelles dont on ne disposait pas auparavant. Alors, l'histoire s'est quantifiée, je dirais, de plus en plus à partir de l'école des annales, c'est-à-dire à partir du XXe siècle, première partie du XXe siècle, mais l'économie elle-même s'est de plus en plus intéressée à l'histoire, y compris à l'histoire longue. Et d'ailleurs, on voit que l'histoire s'est quantifiée et l'économie s'est historicisée. C'est-à-dire que vraiment, on a eu ces deux mouvements intellectuels en même temps. D'ailleurs, en économie, alors c'est une partie de l'économie, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais juste pour le savoir, parce que c'est intéressant, qu'on appelle la cliométrie, c'est-à-dire qu'on mesure, l'idée c'est vraiment de mesurer l'histoire économique, hein, de regarder à la fois, de mesurer quantitativement l'impact de certains faits historiques, comme le chemin de fer, comme le vaccin, et en même temps de pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc, ça nécessite une quantification, ça nécessite des outils statistiques, et plusieurs prix Nobel ont d'ailleurs été récompensés pour des travaux de ce type-là. Alors, il y en a un qui a beaucoup travaillé sur les questions de santé, j'en parlerai peut-être, qui s'appelle Robert Fogel, et il y en a un très connu, pour le coup, un prix Nobel plus récent, qui s'appelle Angus Deaton, qui a écrit un livre que je vous conseille, qui est un livre très accessible, hein, comme souvent les prix Nobel d'économie américains font vraiment des livres pour le grand public, et c'est un livre qui s'appelle La Grande Évasion. Et La Grande Évasion, d'ailleurs, c'est bien cette idée selon laquelle le développement économique a permis à l'homme de s'éloigner de sa misère originelle, de sa condition originelle. Et donc, il y a bien cette idée de progrès. Alors, je vais traiter plus particulièrement trois aspects du progrès. Vous savez que le progrès est défini par les Nations Unies. Il y a des indicateurs de progrès, des indices de développement humain dans lesquels il y a énormément de choses. Il y a des choses sur l'alphabétisation, des choses sur l'égalité sexuelle, des choses sur l'économie, sur la pauvreté, sur la santé, sur l'environnement. Je vais aujourd'hui me limiter à trois aspects. L'aspect économique, la question de la santé, tu as évoqué l'espérance de vie, et puis une question qui est moins connue mais qui a été aussi quantifiée, tu en as un peu parlé, et qui en général surprend les gens. C'est la sécurité. C'est le fait que nous vivons dans un monde qui n'a jamais... Le monde dans lequel nous vivons n'a jamais été aussi sûr. Ça n'a jamais existé. Nous vivons dans un monde dans lequel il y a très peu de guerres et il y a très peu d'homicides. Alors évidemment, ça n'est pas notre perception, mais quand on fait de la cliométrie, quand on compte, quand on regarde les choses, on voit en réalité que l'on vit dans un monde très peu conflictuel. Donc je vais essentiellement évoquer ces trois sujets. Je ne vais pas évoquer la question de l'environnement, alors je le dis tout de suite parce qu'évidemment c'est une question qui pourrait venir, non pas parce que je considère qu'il n'y a pas de problèmes environnementaux et que je voudrais uniquement traiter ce qui va bien ou ce qui va mieux, c'est-à-dire la santé et laisser de côté le réchauffement climatique, mais c'est tout simplement parce que je traiterai ça dans une séance ultérieure qui est sur la fin du capitalisme. Et là, je ferai un point très, très serré sur les questions environnementales. Juste quand même pour vous mettre en appétit, en quelque sorte, sachez qu'il existe une grande littérature, si on veut se renseigner sur l'état du monde, ce que malheureusement un certain nombre d'intellectuels que tu as cités, sans vouloir être désagréable, mais ne font pas, ils ne le font pas, alors qu'il existe une littérature abondante, alors qu'on peut se documenter sur l'état du monde. J'ai parlé d'Angus Deaton tout à l'heure. Vous avez un économiste d'Oxford qui s'appelle Max Roser, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre son site internet, et qui donne quasiment tous les jours de nouvelles statistiques de très long terme, hein, sur l'état du monde, comparé au 19e siècle, à la Renaissance, au Moyen-Âge, etc. Vous avez un économiste, un essayiste suédois que j'aime beaucoup, qui a été traduit en français, qui s'appelle Johan Norberg, exactement, qui a publié... Alors d'ailleurs, c'est fascinant, parce qu'il avait publié ce livre en anglais il y a à peu près un an, qui s'appelait Progress, et il a été publié en français sous le titre « Non, ce n'était pas mieux avant », ce qui montre bien qu'il faut vraiment qu'il faut apprendre des langues étrangères, parce que c'est vraiment le Royaume-Uni et la France, quoi. Je trouve que c'est tout à fait fascinant, mais c'est un excellent livre. Et je vais juste en introduction vous donner quelques statistiques qui sont souvent données par Johan Norberg et Max Roser pour fixer les idées, puis ensuite j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Sur 100 personnes, alors on est, je ne sais pas combien on est dans cette salle, un peu plus de 100, mais imaginez, bon, voilà. 94 vivaient en situation d'extrême pauvreté en 1820, contre 10 aujourd'hui. L'extrême pauvreté